suis fabriqué moi-même. Je ne suis pas un héritier. Il a fallu conquérir ma propre légitimité. Au départ, je suis un type totalement illégitime. Mais j'ai une relation forte avec la langue française. Et j'oppose toujours, d'un côté, la vanité et la modestie, et de l'autre, l'orgueil et l'humilité. Moi, je me sens totalement humble, mais je suis orgueilleux de ce que j'ai fait. Et croyez-moi, quand on a travaillé 12 ans de sa vie à faire une œuvre comme Shoah, on est vraiment dépourvu de vanité personnelle. Ça n'a pas de sens.
Suite de notre grande table spéciale Claude Lanzmann à l'occasion de la diffusion sur Arte de la tétralogie des quatre sœurs, quatre témoignages de femmes rescapées des camps et de l'horreur nazie. Décédées depuis, Ruth, Ada, Paula, Anna, ils les avaient rencontrées 30 ans après la guerre, des entretiens au long cours précieusement conservés depuis les années 70, que le cinéaste révèle aujourd'hui encore plus de 30 ans après. À l'époque, il manquait un film qui embrase l'événement dans sa totalité, lui dit-on. Pas un film sur la Shoah, mais un film qui soit la Shoah. Il s'y attelle donc. Sorti en 85, ce film œuvre, Shoah, lui a pris 12 ans de sa vie. Ces quatre récits en sont nés, ils en sont issus, ils sont présentés à la fois comme quatre films autonomes et diffusés les 23 et 30 janvier sur Arte, qui programme à ces dates-là deux soirées autour du cinéaste. Claude Lanzmann, une œuvre de mémoire, oui mais quelle mémoire, avec nous pour en parler l'historien Pierre Nora, éditeur et écrivain, auteur des Lieux de mémoire, connu pour ses travaux sur le sentiment national et sa composante mémorielle, et Arnaud Despléchins, cinéaste, dans un ouvrage collectif, Claude Lanzmann, Un voyant dans le siècle, paru l'an dernier chez Gallimard. Il confie n'avoir jamais rencontré un artiste qui soit à ce point l'enfant de son œuvre. Bonjour Pierre Nora.
Bonjour madame.
Et bonjour Arnaud Despléchins.
Bonjour Olivia.
Il n'en aura jamais fini, Claude Lanzmann, et à travers lui peut-être nous n'en aurons jamais fini, Pierre Nora.
Oui, il faut dire que ces quatre films que nous venons de voir laisse le spectateur anéanti, pétrifié devant la réussite extraordinaire et peut-être unique même à l'intérieur d'une œuvre unique. Parce que il faut se demander pourquoi c'est peut-être le film le plus beau qu'il ait fait. À mon avis, c'est parce qu'il y a eu une rencontre absolument exceptionnelle entre quatre femmes elles-mêmes. Chacune exceptionnelle au destin totalement différent, personnalité complètement différente, nationalité et destin, et un homme qui a su incroyablement les mettre en confiance, les retrouver d'abord. Il a fallu faire un travail méticuleux et les mettre en confiance dans des conditions probablement répétitives, alors qu'il y en a une qui habite à Panama City et l'autre en Israël. Et il faut dire que c'est un intervieweur d'une qualité exceptionnelle, parce qu'il a une sorte de neutralité empathique avec ces femmes qu'il séduit. C'est un grand séducteur. Et ces femmes n'ont jamais dit ce qu'elles lui disent. On le sent, on le voit, et en dépit de la répétition probable que ces cinémas, je me tourne vers Despléchins, a dû faire, il y a un fond, disons, d'humanité réciproque qui vous met en transe, si j'ose dire, et vous fait poser à travers ces histoires d'un autre temps, il y a maintenant 70 ans, d'une tragédie insondable, d'un mystère abyssal, toutes les questions que les hommes peuvent se poser sur l'histoire de cette folie, sur le bien, le mal, l'humanité, la chance de survivre, la culpabilité, bref, ce face-à-face, et même Despléchins va nous en parler, absolument de plan fixe, monté avec subtilité, est écrasant.
Arnaud Desplechin, avant Les Quatre Sœurs, quatre autres films sont nés du tournage de Shoah. Un vivant qui passe, sorti en 97, Sobibor en 2001, le rapport Karski en 2010 et surtout, on en reparlera, le dernier des Injustes. On a le sentiment avec Ces Quatre Sœurs d'un puzzle qui se complète au fil du temps, mais on voit aussi que la distance apporte beaucoup à la lecture des événements. C'est comme des piqûres de rappel, ces films qui arrivent au fil des années, au fil des décennies. Il n'en aura jamais fini, lui, Claude Lanzmann, avec cette œuvre monument qu'a été Shoah et tous ses prolongements.
Mais je trie un peu pour les gens qui sont pas spécialistes de l'œuvre de Lanzmann. Il me semble que ce sont des films très très différents. Shoah est le film qu'on sait. On y reviendra. Il y en a d'autres. Nous parlions avant l'émission de Pourquoi Israël, qui est un film qui est un enchantement de films. Mais après Shoah arrive ces portraits que vous désignez, Un vivant qui passe, Le dernier des Injustes, Sobibor, et qui sont des films où chaque personnage, ou le rapport Karski, incarne un problème. Sobibor, c'est la révolte juive. Le dernier des Injustes, cette culpabilité des directeurs de Judenrat. À chaque fois, un vivant qui passe, c'est comment un non-juif ne voit pas un visage juif à Theresienstadt. C'est quoi voir et ne pas voir? Donc c'est des problématiques presque philosophiques autour de chacun de ces films. Ce qui m'a bouleversé dans Les Quatre Sœurs, c'est que ces femmes dépassent elles n'incarnent pas une question, elles incarnent elles-mêmes. C'est cette rencontre entre le cinéaste, qui est une rencontre absolue. C'est quoi une rencontre? Ça aussi, c'est un motif philosophique. Un homme et une femme, à chaque fois, se rencontrent et c'est filmé. Nous en avons la trace, nous en avons la preuve. Et m'a frappé, ça a été ma première réaction en sortant du film. Je pensais qu'il y avait un privilège, peut-être ce que je vais vous dire va vous choquer, un privilège accordé au personnage féminin dans la solitude. Chacune de ces femmes est seule. Elles sont quatre pourtant, donc elles se tiennent la main. Claude leur tient la main, il se fait leur frère, il se transforme en frère. Mais, vous voyez, Shoah, c'était toutes ces voix chorales. Et tous ces hommes parlaient surtout pas pour eux-mêmes, ils parlaient pour ceux qui n'étaient plus là. Et là, chacune de ces femmes parle pour elles-mêmes. Et parle pour elles-mêmes et raconte quatre destins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et il y a et du coup, je pensais, il y a un côté opératique dans Les Quatre Sœurs sur cette solitude, cette voix d'une femme qui se fait entendre à travers les désastres du XXe siècle. Et on entend cette solitude, pour chacune avec de manière très très différente. C'est vrai qu'il y a un charme. Je pense en particulier à Paula Biren qui est le deuxième épisode qui s'appelle Balouti. Où ça commence comme ça, c'est les premiers plans, on voit un clap et Claude Lanzmann dit en anglais, puisque l'interview se passe aux États-Unis, est-ce que je vous rends nerveuse? Et elle dit bah oui, évidemment, vous me rendez nerveuse. Et alors il y a comme ça, c'est une séduction, c'est pas une drague du tout, c'est une séduction, c'est une danse entre les deux.
Une empathie
pour que la parole arrive et la parole nous arrive et le gouffre du temps de ces 70 ans, on plonge dedans et on est terrifié. Et empli par le visage de ces femmes. Il faudrait dire que la photographie de Chapuis est admirable. Ces femmes sont chacune admirablement filmées.
Il nous a raconté, on vient de l'entendre, Claude Lanzmann, cette séquence où il provoque quand même Paula dans son questionnement. Elle savait qu'il savait, lui savait qu'elle savait. En tout cas, elle en savait plus. Et en commençant cet entretien, ils avaient déjà beaucoup discuté ensemble. Il essaye de lui faire raconter quelque chose. Et il le dit, il tente d'une certaine manière de la déstabiliser un peu pour être sûre qu'elle se confie, qu'elle dise tout ce qu'elle avait à dire.
Oui.
Et c'est vraiment cette maïeutique Lanzmann, ce questionnement qu'il pose.
Une anecdote toute personnelle et familiale. Mon père a vécu la guerre compliquée en France, et Lanzmann était un ami du temps où mon père vivait encore. Je me souviens d'une soirée où il a réussi à lui faire dire sur sa guerre des choses que je n'avais jamais pu arriver à lui faire dire, tellement il avait l'art de lui soutirer, si j'ose dire, de le mettre en confiance et de le persécuter en même temps, parce qu'il y a quelque chose d'un peu agressif, c'est pas le mot, mais de mot inquisitorial, très intelligemment mené. Bon, alors évidemment, si vous m'avez demandé de venir, c'est un peu pour parler en historien, j'imagine. Et effectivement, pour un historien, ce genre de film pose infiniment de questions qui vont au fond des choses. parce que on sent bien qu'il y a une part de parti pris chez Lanzmann. Ce qui lui importe, c'est pas tellement la vie des camps, c'est l'extermination. C'est l'axe qui oriente d'une manière peut-être plus exagérée qu'elle n'a été, car le système concentrationnaire a été une espèce d'industrie générale, de palais. Et là, ce n'est pas simplement la vie dans les camps, c'est le but exterminateur qui détermine tout. Et même dans ses questions, il a quelque chose d'un peu biaisé, d'un peu provocateur, ce qu'on veut. Mais il arrive par ce moyen à faire ressusciter ce passé, à nous le faire vivre, sentir plongé. Au fond, c'est pour moi et pour un historien, c'est le Michelet du génocide, si j'ose dire. C'est-à-dire l'homme qui a réussi. Vous savez, Michelet, on lui donne comme grand historien le fait d'avoir la résurrection du passé. C'était ça son thème majeur. Eh bien, il a fait ressusciter le passé, ce que aucun document d'histoire, aucune lecture d'histoire n'arrive à nous faire faire. Et ça, c'est unique. Il s'est fait le grand archiviste de l'horreur du siècle. Ce sera son titre de gloire pour la postérité. Il s'est identifié à ça. Et effectivement, le grand problème que ça pose aussi, c'est que faire de tout ça? On est partagé entre le sentiment de dire qu'il faudrait le montrer aux écoles, à tous les enfants, enfin, vous voyez, et en même temps de se dire, qu'est-ce qu'ils vont en faire, ces enfants, de cet abîme, d'une horreur inexplicable? Comment vont-ils s'en nourrir? Qu'est-ce que ça va leur apprendre sur le présent, sur la vie? Donc il y a une sorte de mystère insondable. Parce que il faut dire que à propos de Claude, il s'est lancé dans cette aventure, j'en étais le témoin, sur un film qui lui avait été demandé par Israël sur Shoah, et qui était une histoire de la Shoah. C'est devenu progressivement tout à fait autre chose, ce film où on ne voit pas l'horreur, mais où on a le souvenir de l'horreur et la mémoire. Donc, il a été le grand historien de la mémoire, si j'ose dire. Et ça, c'est un titre... Mais il faut dire quelque chose. Quand vous vivez là-dedans, vous en ressortez pas. Intellectuellement ou mentalement.
Donc, il n'en aura
jamais. Si vous faites le grand plongeon, il paraît presque impossible de revenir à la vie normale. Alors, c'est ça qui nous fait nous demander à tout moment, il me semble, que faire en nous? Vous avez été trop jeune pour vivre tout ça. Moi, j'étais enfant, si j'ose dire.
Pierre Nora, dans un livre de mémoire, Le Lièvre de Patagonie, Claude Lanzmann expliquait sa démarche. Personne n'est revenu des chambres à gaz. Le jour où j'ai compris cela, je sus que le sujet de mon film serait la mort même, la mort et non pas la survie. Contradiction radicale puisqu'elle attestait en un sens l'impossibilité de l'entreprise dans laquelle je me lançais. Et là, je suis d'accord avec vous, Ardo Desplechin, aussi, tout en s'inscrivant dans le prolongement de Shoah, les quatre sœurs semblent relever pour lui aussi d'une entreprise un tout petit peu différente. Oui. Comment continuer à vivre? Pourquoi elle? Pourquoi moi? Pourquoi ont-elles survécu et à quel prix? Je vous propose d'écouter un extrait du témoignage d'Anna, extrait du film L'Arche de Noé.
Moi, est-ce qu'il vivait ce privilège d'être précisément cette Arche de Noé?
Im efshar lahatzil x anashim, az vaday she yeter hanashim...
Si on pouvait sauver x personnes, alors bien sûr que les autres personnes n'avaient pas le même destin. Personne ne peut accepter ce fait. En quoi est-il meilleur? Pourquoi a-t-il été choisi? Mais c'était au-delà de notre choix personnel.
Oui, c'est en effet une question. Mais...
Aval ma she mafria li tamid, she shokhachim et hamekor.
Mais ce qui me dérange toujours, c'est qu'on oublie toujours ce qui en est à l'origine. Que l'horreur nazie avait produit de telles situations où des gens devaient choisir parmi d'autres gens qui devait vivre et qui devait mourir. Et franchement, les accusations envers ces malheureux qui devaient assumer ce rôle terrible. En fait, qui était coupable? Sont-ils les coupables? Le régime nazi l'était.
Tout en posant toutes les questions qui font mal, Lanzmann n'est ni juge ni parti, vous l'évoquez l'un et l'autre, il ne retire rien à la dignité de ces femmes, il les questionne sans compassion mais avec empathie, il révèle, donne à voir toute l'intelligence aussi de ces quatre personnalités. Il y a quand même une sorte de double...
Ils doivent en partie leur survie à leur propre intelligence, il faut dire, parce qu'il faut voir le récit de Boutelias d'embranchement. Elles ont pris intuitivement un parti qui s'est révélé le bon, et qu'on se dit que si elles n'avaient pas eu cette intelligence, ce discernement, à travers une anémie physique, morale, mentale, absolue, elles n'auraient pas survécu. Ce sont des exceptions, ces femmes. Et à côté de ces quelques femmes, par exemple, celle dont vous parlez, qui s'est sauvée grâce au marchandage que le Kastner avait fait avec Eichmann pour sauver 16 000 juifs, des 450 000 des 450 000 des juifs hongrois, cette histoire n'aurait pas lieu. Donc c'est une série de chances, effectivement.
Oui, c'est l'intelligence et c'est la chance, et chacune en témoigne, Arnaud Desplechin. C'est quand même aussi un film, une tétralogie sur la culpabilité, parce qu'on entend cette double peine. À la fois, elles ont vécu l'horreur, et en rentrant, elles ne cessent de s'interroger, pourquoi moi? Pourquoi j'ai pourquoi j'ai pu vivre? Pourquoi j'ai survécu à tout cela?
Chacune d'une façon très différente. Vous parliez de Hannah Marton, qui est donc dans l'Arche de Noé, le quatrième film. Alors c'est l'histoire invraisemblable du convoi Katzner. Mais en même temps, c'est très beau. Il faut voir les films. Hein. Il faut vraiment que les téléspectateurs les voient. Parce que c'est aussi, il y a la figure de ce mari mort qui est en photo, qui est une grande photo qui surplombe Lanzmann et Marton. Et ce mari vient de mourir. Et cette femme à plusieurs reprises, les larmes lui montent aux yeux. Et ce sera la fin du film. Et son mari disait de ce convoi Kastner, elle décrit son mari en disant, il était fataliste. Et moi, je ne le suis pas. Et elle vit avec la culpabilité, et son mari avait su se débarrasser de la culpabilité. Mais chacun des récits, c'est le récit d'une douleur, le récit d'une solitude et le récit d'une culpabilité. Je pense au serment d'Hippocrate, qui est le film... Il est foudroyant, ce film. Foudroyant. De cette femme, dans quelles circonstances elle a rencontré Mengele, et comment Mengele a tué son enfant, et comment... Après, elle part...
Le pire, c'est que c'est pas Mengele qui l'a tué,
c'est elle qui fait la piqûre.
Mengele ne le prenne pas.
Ne le prenne pas.
Et qu'une infirmière du camp finit par lui donner une seringue pour qu'elle tue l'enfant qui vient de naître avant que Mengele ne le prenne.
Parce que Mengele, médecin en chef du camp d'Auschwitz, faisait aussi ses expérimentations. Il avait choisi de tester sur son enfant, celui de Ruth, à savoir combien un nouveau-né pouvait vivre, combien de temps un nouveau-né pouvait vivre sans manger. Il refusait le droit de nourrir son enfant.
Et au-delà du témoignage, il y a cette puissance cinématographique. Chacun des films a une texture et une mise en scène légèrement différente. Vraiment, chaque femme est regardée d'une façon singulière. Je pense à un trait dans cette histoire qui est sûrement la plus épouvantable, celle de Ruth Elias. Et pourtant, il y a ces chansons. À deux reprises, elle joue de l'accordéon. Elle joue de l'accordéon parce qu'elle était cuisinière. Quand elle était, elle était à Theresienstadt, elle était aux cuisines. Et alors, on aimait bien parce qu'elle aimait bien les chansons. Alors, elle jouait de l'accordéon et deux fois, elle chante. Et alors, vous voyez, il y a en même temps cette culpabilité et ce chant qui vient alléger le récit terrible que nous devons entendre. Chacun des films vraiment trouve une forme très singulière.
Mais Arnaud Desplechin, est-ce que c'est pas justement du cinéma dans ce qu'il a de plus grand? Parce qu'il fait lien, déjà entre elles, entre ces quatre sœurs qui n'en sont pas biologiquement, parce qu'il fait lien aussi entre elle et lui, vous évoquiez cette forme de fraternité qu'on ressent dans l'échange, et parce qu'il fait lien entre elle et nous, témoins, spectateurs, téléspectateurs.
Et c'est là la question que posait Pierre Nora, c'est qu'est-ce qu'on fait après de ça? Moi, je peux vous répondre je vous y répondrai maladroitement, mais avec une grande émotion, on ne s'en remet pas. c'est tout.
Et c'est pour ça qu'on hésite à pousser des jeunes aujourd'hui plonger là-dedans, parce que vous avez tout à fait raison. Où on plonge, et c'est un abîme dont on ne remonte pas.
Non.
On comprend même ceux qui se sont suicidés après la guerre et après avoir été rescapés eux-mêmes de camp, ce qui est incroyable, si vous voulez, par incapacité à revenir à la vie. Et le fait que, puisqu'il n'y a rien à en faire, autant ne rien en faire. Et ne pas montrer, ne pas faire vivre des gens dans cette espèce d'abysse qui les prend et ne peut plus les tenir.
Je pense à une très belle phrase qui est dans les dernières scènes de Shoah, qui est je regrette de ne pas me souvenir du nom d'un des chefs de la résistance du ghetto de Varsovie, et qui raconte qui parle à Lanzmann et qui dit: si vous pouviez lécher mon cœur, vous en mourriez, c'est du poison, c'est mon cœur est amer, il n'a pas su
ça laisse aussi un mystère, comment cette aventure a pu arriver. C'est en dépit de tout ce que l'on sait, des engrenages, des circonstances particulières, de tout ce qu'on fait, il y a quelque chose qui distingue effectivement cette Shoah de reste des génocides que nous avons connus, que nous connaissons encore sous nos yeux, dont nous voyons les horreurs. Et il y a effectivement une spécificité qui fait que, je crois, c'est pas simplement parce que ça a été le premier, historiquement, qu'il est arrivé au cœur de l'Europe, dans l'un des pays les plus civilisés, les plus philosophiques et les plus musicaux et les plus littéraires, l'Allemagne, mais c'est le phénomène de la mort industrielle, qui, lui, est absolument unique. Faire emmener à l'abattoir par 100 000, vous vous rendez compte, 1, 2, 3, jusqu'à 100 000 et puis jusqu'à plusieurs millions, pour les mettre tout nus et mêlés dans des chambres à gaz, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement.
Oui, c'est en cela aussi que ces témoignages posent la question du sens, au-delà même de l'émotion, Pierre Nora, Arnaud Desplechin. Au début de Shoah, Simon Srebnik parle de ce rapport à la parole, au sens, à la compréhension et à la représentation. Écoutez.
Personne n'en repartait jamais. Les camions à gaz arrivaient là. Il y avait deux immenses fours. Et ensuite, on jetait les corps dans ces fours. Et les flammes montaient jusqu'au ciel.
Jusqu'au ciel ?
Oui. C'était terrible. On ne peut pas raconter ça. Personne ne peut se représenter ce qui s'est passé ici. Impossible. Et personne ne peut comprendre cela.
Quand elle raconte qu'à la sortie des camps, on s'est enfermé dans notre silence parce que personne ne pouvait nous comprendre. Ruth, dans le Serment d'Hippocrate, premier film qui sera diffusé sur Arte, ne dit pas autre chose. Et on entend là aussi que la force de Claude Lanzmann, c'est de faire advenir une parole inaudible et de la mettre en forme, de filmer aussi un présent dans lequel le passé peut ressurgir. Seule possibilité peut-être de rendre vivant, restituer, réincarner ce qu'a pu être le crime nazi à travers la parole de ces témoins victimes de cette période-là. Arnaud Desplechin, qu'est-ce que ces témoignages pour vous apportent à la mémoire, à sa constitution ou à sa restitution ? Autrement dit, est-ce que Claude Lanzmann pour vous est un cinéaste contemporain ou un cinéaste historien ?
Moi je le verrais, je pense, sans historien, il n'y aurait pas les films de Lanzmann. Hein. Ça se sent en particulier dans l'Arche de Noé sur le convoi Katzner. On voit à quel point Claude connaît tout. C'est-à-dire que, et du coup, peu à peu, son interlocutrice, quelque chose peut se partager. Il y a une confiance parce qu'il y a un travail d'historien qui est fait préalablement. Pour autant, c'était un texte que j'aimais beaucoup de Patrice Maniglier, Lanzmann philosophe. Est-ce qu'il est philosophe ou est-ce qu'il est historien? Quelle est la différence entre le philosophe et l'historien? C'est quoi la différence entre l'histoire et la mémoire? C'est des questions qui, bien sûr, me dépassent. Mais enfin, oui, Bien sûr qu'il y a besoin de l'histoire pour le faire, mais son travail est différent parce que, si vous voulez, c'est la question de la pédagogie. Bien sûr que tout le monde le sait. Tout le monde sait que Hitler et le système nazi a assassiné 6 millions de Juifs. Tout le monde le sait. Et pourtant, quand on ne sait ça, on ne sait encore rien. Et alors arrive cette chose qui, à mon avis, ne peut pas se transmettre de façon pédagogique, qui est un choix, qui est le choix de chaque spectateur. C'est est-ce que vous voulez rencontrer une œuvre qui, tout d'un coup, va vous mettre tout ça au présent, et au lieu de le laisser dans le passé, va vous le mettre au présent. Et cette rencontre entre nos solitudes, la solitude de ces chaque femme et la solitude de chaque spectateur, vous voyez, devant ces récits qui viennent nous dévaster, on accepte chacun de l'accueillir ou non. Et voilà. Et vient le moment dans la vie, moi le moment m'est arrivé avec Shoah, où j'ai pu le rencontrer, le moment m'est arrivé avec les quatre sœurs, j'étais prêt à voir le film, et vous acceptez de l'accueillir ou pas. Mais je pense que c'est plus un philosophe qu'un historien.
Claude Lanzmann, une œuvre de mémoire, on en parle avec nos invités, l'historien Pierre Nora et le cinéaste Arnaud Desplechin.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Je crois qu'il y a aujourd'hui cette idée qui, à la fois, a des effets extraordinaires parce que ça redonne de l'identité sociale.
De la chair.
De la chair. Donc l'acte de témoigner est incontestablement quelque chose d'important pour celui qui témoigne. C'est aussi important pour montrer surtout aux très jeunes qu'il y a eu des gens qui ont traversé cette histoire. Donc ça donne une sorte de réalité. Mais je pense que ça serait une démission de l'opération historique que de penser que l'histoire, c'est simplement la mise à bout de témoignages.
Pierre Nora, vous aurez reconnu la voix de votre consoeur, l'historienne Annette Vivorca. Pour autant,
en effet,
l'histoire n'est pas la mise bout à bout de témoignages, rappelle-t-elle. Le travail du cinéaste ne peut remplacer celui de l'historien. Vous avez-vous distingué à plusieurs reprises, Pierre Nora, la mémoire et l'histoire?
Oui. Ben, si vous voulez, je l'ai fait précisément dans les années 80, qui est une année bizarre, je le dis, parce que cette année 1984, précisément, 1985, a vu surgir brutalement quatre, au moins, œuvres de mémoire. C'est l'époque où Pierre Vidal-Naquet commence ses mémoires avec le départ, la déportation de ses parents. Le moment de Shoah, le début pour moi de la série des lieux de mémoire et la traduction en France du livre du meilleur et plus grand historien juif américain qui est mort depuis, qui s'appelait Yosef Yerushalmi, et dont le livre s'appelait « Histoire et mémoire juive », c'est-à-dire la différence qu'il faisait entre une mémoire qui est une tradition incarnée, répétitive, vécue psychologiquement, mobile, subjective, et l'histoire qui est évidemment un phénomène intellectuel de reconstruction savante et un rapport médiatisé avec le passé, tandis que la mémoire est un rapport immédiat avec le passé, avec tout ce que ça a d'erreur, de fausseté du document, et chacun sait que pour un policier, le témoignage d'un témoin est suspect. Tant qu'il n'a pas des preuves extérieures à ce témoignage, qu'il dit que c'est vrai ou pas vrai. Eh bien, c'est la même chose. Simplement, notre époque, avec son allongement de la durée de la vie, avec ses bouleversements extraordinaires qu'ont connu le siècle, a produit un monde et une génération de témoins. De témoins de ces bouleversements dont la Shoah a probablement été le plus extrême et qui a donné à la Shoah ce privilège du témoignage, en quelque sorte, que Lanzmann a su incarner. Mais du coup, il y a eu partout une sorte de montée en puissance de ce phénomène de mémoire que les historiens, dont j'ai été, ont voulu tenir compte, essayer de comprendre et redonner la dimension mémorielle à ce que l'on présentait comme une continuité, si vous voulez, et une accumulation historique et scientifique.
Mais un témoignage n'est pas une vérité. Alors justement, vous, les historiens...
Un témoignage n'est nullement une vérité.
Quelle valeur vous avez donnée à ces témoignages collectés au fil des années par des cinéastes comme Claude Lanzmann?
Absolument irremplaçable pour l'histoire, parce que si je voulais définir l'histoire en deux mots pour dire vite, je dirais que ça consiste à faire savoir le plus de choses possibles et plus que les autres, que c'est destiné à faire sentir la différence des temps et la relativité de cette différence des temps. Des films comme celui-là, comme le disait Desplechin, c'est il y a 70 ans, c'est un autre monde, ça suppose que pour qu'on ait pu... Vous voyez, faire de l'histoire, c'est faire sentir aux gens la différence des temps. Et enfin, et surtout, c'est faire comprendre ce qui se passait, c'est-à-dire intellectuellement restituer les causes, les effets, les embranchements, les collections, la constellation et la mise en perspective de ce qui s'est passé aux yeux de ceux qui n'ont pas les moyens de cette culture, cette largeur de vue, cette capacité à remettre et au fond à expliquer l'arrivée d'un phénomène. Donc c'est une opération qui est à la fois scientifique, savoir, psychologique, sentir, et intellectuel, comprendre. Mmh. Voilà. Tandis que la mémoire est un phénomène spontané que nous éprouvons tous à titre individuel, évidemment, et chacun sait que sa propre mémoire est une reconstruction permanente, fallacieuse, faillible, mobile, psychologique, émotionnelle, qui change avec le temps et qui ne constitue pas un savoir accumulé, mais une expérience individuelle ou parfois collective.
Arnaud Desplechin, voilà. Claude Lanzmann lui-même réfutait cette démarche de documentariste. Il parlait de film à propos de choix d'un film de recréation. Aujourd'hui, on l'évoquait avec Pierre Nora, est-ce qu'il y a eu clairement un avant-choix, il y aura un après-choix? Qu'est-ce que sa démarche a changé dans le cinéma, cette fois-ci, pas dans l'histoire?
Il y a beaucoup d'enseignements cinématographiques. Il y en a un qui est un enseignement auquel je suis très attaché, qui est que le cinéma se fait au présent. C'est de faire le cinéma au présent. C'est une phrase que moi j'ai entendue dans les revendications de la nouvelle vague. C'est il faut faire du cinéma au présent et pas au passé. Et ça, c'est de fuir alors. Et pourtant, Lanzmann en tant que cinéaste se sert de tous les outils du cinéma pour y arriver. Par exemple, pas de reconstitution, faux dans Shoah. Voilà qu'il loue un train, qu'il met la caméra, qu'il a l'audace, l'obscénité de mettre la caméra à la place de la victime à l'intérieur du wagon, et qu'on voit apparaître ce panneau Treblinka. Et voilà, c'est quelqu'un qui... C'est pas du reportage ce qu'il fait, c'est de la mise en scène, c'est de la pure mise en scène. Vous entendiez cette phrase qui est devenue une phrase de dialogue très très fameuse, quand Simon Shrebnik dit « les flammes montaient jusqu'au ciel », et Lanzmann répète « jusqu'au ciel », il dit « oui ». Et quelle vérité est dite là? Alors, il y a quelque chose qui est tout. Donc, il y a beaucoup d'enseignements cinématographiques. Le Shoah a changé la donne, mais voilà. C'est pour moi, c'est un film vraiment séminal qui aura modifié bien des.
Il y a dans Shoah l'apparition, comme pour suivre ce que dit Desplechin, d'un thème qui est très personnel et qui pourtant va très loin dans l'histoire, le train.
Oui.
Et parce qu'effectivement. Toute cette histoire de déportation, le mot le dit, c'est le train.
Et si je pouvais ajouter, mais c'est votre présence qui me fait penser à ça. Il y a un moment formidable comme ça, c'est quand Rolilberg, on voit l'amitié entre Rolilberg, le grand historien, et Claude Lanzmann qui discutent chez Rolilberg, et Lanzmann fait jouer le rôle de Tchernakov à l'historien et lui fait réactualiser cette parole. Et ça, c'est la puissance de l'art.
Merci beaucoup, messieurs. Puissance de l'art, puissance de l'histoire. Merci beaucoup, Pierre Nora. Merci à vous, Arnaud Desplechin, d'être venu nous parler de cette œuvre de mémoire, celle de Claude Lanzmann, à l'occasion donc de la diffusion sur Arte les 23 et 30 janvier des 4 épisodes, des 4 films qui composent la tétralogie des 4 sœurs. Merci à tous. Quand une grande table se termine, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table, à Claire Maillot, à Henri Leblanc, à Clémence Marie, à Chloé Leblanc, avec l'aide précieuse de Maxime Morin et de Bertie Bourdon pour la programmation et la préparation de cette émission, à la réalisation aujourd'hui, Perret Legras avec Théo Gomard. Merci à tous et rendez-vous demain.